Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Je donne le tout dernier bilan ce matin de la tempête Nils. Un deuxième mort dans le Tarn-et-Garonne. 450 000 foyers toujours sans électricité ce matin. Des maisons inondées par la Garonne. On fera le point sur RMC et la station de ski de Tink a carrément été confinée durant la nuit. On est 20 ans jour pour jour ce matin après la mort d'Ilan Halimi. Un hommage est prévu à l'Elysée et vous verrez que les préjugés antisémites perdurent. Et on va prendre tiens aussi des nouvelles des Français du biathlon qui pourraient bien faire une razzia de médailles ce week-end aux Jeux Olympiques.
Et le bilan de la tempête Nils s'alourdit à 2 morts ce matin.
Oui, c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui vient d'annoncer donc la mort d'un habitant du Tarn-et-Garonne qui était dans son jardin durant la tempête qui prive encore 450 000 foyers d'électricité, selon Enedis, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, où la Gironde et Lot-et-Garonne restent en vigilance rouge, au moins jusqu'à demain, pour la crue de la Garonne. Par exemple, dans la petite ville de La Réole, où on est encore en direct ce matin sur RMC avec vous, Pierre Bourgès, correspondant dans la région. L'eau monte depuis 48 heures et ce matin, donc, il y en a dans les maisons.
Oui, c'est ça. Sur la vingtaine de bâtiments sur les quais de La Réole où je me trouve ce matin, eh bien, la quasi-totalité est désormais inondée. Il y a en fonction des endroits, entre 30 et 80 cm d'eau dans les habitations. La plupart des personnes qui logent ici ont été évacuées pour être relogées chez des proches ou dans l'internat du lycée de la commune. Pour une dizaine d'entre eux, il faut savoir qu'en 24 heures, l'eau est montée de plus de 70 cm. Alors, depuis cette nuit, le niveau de l'eau est plutôt stable. Il devrait le rester dans les prochaines heures, selon Vigicru. Avant de remonter jusqu'à demain, ça veut dire que ce n'est pas fini, cette crue. Ce qui inquiète forcément les habitants ici, et notamment ceux situés juste en face de moi, de l'autre côté de la Garonne. Eux sont protégés par une digue, mais il ne manque à certains endroits qu'une cinquantaine de centimètres pour que celle-ci soit dépassée par la Garonne. C'était déjà arrivé en 2021, et des centaines d'habitations avaient été envahies par le fleuve.
Pierre Bourgès en direct ce matin, donc à La Réole pour RMC, où il faut des petits bateaux pour se déplacer par endroits. Et alors de l'autre côté de la France, le risque d'avalanche reste au niveau le plus élevé ce matin dans les Alpes du Nord. Des mesures drastiques sont prises. La station de Lapline, qui était fermée hier, n'ouvrira quelques pistes aujourd'hui. On a passé un coup de fil au directeur des pistes un peu plus tôt ce matin sur RMC. Et un confinement avait carrément été décrété cette nuit à Tignes pour des déclenchements préventifs d'avalanche. Je veux dire qu'il y a de l'inquiétude. Le début d'hiver a été particulièrement meurtrier à la montagne. Et on est en période de vacances scolaires. Je signale au passage que la zone B et la Corse rejoignent la zone A en vacances aujourd'hui.
Il est 8h03 sur RMC. Ça ne s'arrange pas. Le nombre d'actes anti-religieux reste à un niveau très élevé en France.
Oui, plus de 300 actes anti-musulmans. Ça a doublé en un an. 850 actes anti-chrétiens, surtout des vols dans les églises et les cimetières. Et un peu plus de 1300 actes antisémites. C'est la moitié des 2500 actes recensés. Ça reste un niveau historiquement élevé, nous dit le ministère de l'Intérieur dans son bilan pour l'année 2025. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va symboliquement planter un arbre dans les jardins de l'Élysée ce matin en hommage à Ilan Halimi, ce jeune juif torturé à mort il y a 20 ans, jour pour jour. C'était un 13 février 2006 à Bagneux, au sud de Paris. Et 20 ans après, il y a cette étude de l'IFOP que vous allez nous détailler pour RMC, Clara Gabillet. On s'aperçoit que les clichés antisémites ont la peau dure.
Oui, à commencer par ceux relatifs à l'argent. Presque un tiers des sondés estiment que les juifs sont plus riches que la moyenne des Français. 21% des interrogés pensent qu'ils ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance. Des clichés antisémites qui sont tenaces, en particulier chez les 18-24 ans. Plus les répondants sont jeunes, plus l'antisémitisme est intégré, conclut cette étude de l'IFOP, à tel point qu'un jeune sur 10 pense que la Shoah n'a jamais existé. La moitié d'entre eux pensent ainsi que l'existence de l'État d'Israël n'est pas justifiée. Autre enseignement, 20 ans après la mort d'Ilan Halimi, une grande majorité des sondés, près de 80%, estiment qu'un Français juif pourrait aujourd'hui être victime d'une affaire comparable. Climat d'angoisse qui pousse de plus en plus de juifs à faire leur alia. Ils étaient 3300 l'an dernier à s'installe en Israël, 45% de plus qu'en 2024 et un record depuis 10 ans.
Est-ce la fin des tensions entre la France et l'Algérie ? On savait que le dialogue avait repris après 2 années de grosses tensions diplomatiques. Eh bien, cette fois, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui va se rendre en Algérie lundi et mardi prochain, Romain Cluzel du service politique.
Et plusieurs dossiers vont se retrouver au cœur des discussions entre Laurent Nunez et son homologue algérien. La question sécuritaire entre les deux pays, avec la menace terroriste et le narcotrafic, mais aussi les ressortissants algériens sous OQTF. En revanche, on ne sait pas encore si le cas de Christophe Glaize, journaliste français emprisonné en Algérie, sera discuté entre les deux responsables politiques, ni si Laurent Nunez pourra lui rendre visite. C'est un déplacement particulièrement délicat à appréhender pour le ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a tout à reconstruire dans la relation entre les deux pays et les échanges sont encore très fragiles. Ça ne peut pas être pire, estime un conseiller gouvernemental. Et pour préparer cette rencontre on ne peut plus compliqué, Laurent Nunez et son homologue ont échangé par téléphone dès hier après-midi.
On s'interroge encore ce matin sur la sécurité au musée du Louvre, le plus grand du monde et manifestement un peu une passoire, puisqu'il y a cette nouvelle affaire que vous allez nous raconter, Martin Bourdin, pour RMC. 9 personnes, dont 2 guides, ont été interpellées cette semaine pour une histoire de fraude à la billetterie.
Ce sont jusqu'à 20 groupes qui pouvaient entrer chaque jour dans le musée grâce à cette fraude finalement assez simple. Des guides réutilisaient plusieurs fois le même billet pour faire entrer leurs visiteurs. L'enquête avait ciblé dans un premier temps un couple de guides chinois. D'autres ont ensuite été soupçonnés d'utiliser le même stratagème. Et pour s'assurer que ça fonctionne, ils avaient des complices au sein du musée, du personnel soudoyé. Ils recevaient de l'argent et en échange, ils n'effectuaient pas les contrôles. Au cours de l'enquête ouverte il y a un peu plus d'un an, près d'1 million d'euros en espèces a été saisi. 486 000 euros l'ont aussi été sur des comptes bancaires, mais le préjudice pour le musée du Louvre est bien plus important. Plus de 10 millions d'euros d'après le parquet de Paris. Les mises en cause auraient investi une partie de cette somme dans de l'immobilier en France, mais aussi à Dubaï.
Et alors aux Jeux Olympiques.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
C'est une belle journée qui nous attend sur RMC, notamment dans les Dolomites, à Antols, en Terre Selva, où se déroulent les épreuves de biathlon. On vous retrouve en direct sur place, Julien Richard, pour RMC ce matin. Un des nombreux journalistes mobilisés pour ces JO. On va revoir les garçons dans l'épreuve du sprint. Ça pourrait bien être le début d'un week-end historique pour le biathlon.
Ouais, avec déjà 4 médailles en seulement 3 courses, 2 titres olympiques, le biathlon français est lancé sur un rythme d'enfer en Italie. Et alors qu'il reste 8 épreuves avant la fin de ces Jeux, bien les Bleus se rapprochent déjà de leur record absolu aux Jeux Olympiques. 7 médailles il y a 4 ans à Pékin. Une razzia en Tolz en Terre Selva grâce à des cadres pour l'instant au rendez-vous. Les numéros 1 mondiaux, Éric Perrault, déjà double médaillé en or et en argent à 24 ans et qui sera l'un des favoris de ce sprint aujourd'hui. Lou Jean Monod et puis Julia Simon, lancé dans une folle quinzaine des Bleus, qui peuvent également remercier les techniciens qui préparent leur ski. Dans le jargon, on dit qu'ils ont des fusées aux pieds. En gros, ils sont très très performants. Et puis il y a des adversaires. On a vu des grands noms du biathlon qui ont eu du mal à rentrer dans leur JO, mais qui pourraient bien se réveiller pour contrer les Français dès ce week-end.
On suivra ça à votre écoute, Julien Richard, en direct ce matin pour RMC. Je vous donne tout le programme. Il y aura aussi le 10 km en ski de fond à Val d'Ifiemé avec des Français, les filles du snowboard à Livigno en border cross pour faire oublier l'échec hier des garçons. La fin du concours de patinage artistique aussi à Milan avec Adancio Imphal qui est 3e avant la dernière épreuve en fin de journée. La France est 8e au tableau des médailles. Ce matin, on a reculé d'une place. La Norvège est en tête devant l'Italie. Les Italiens qui cartonnent à la maison pour leurs Jeux Olympiques.
Mais je vous prends au mot, Quentin. Vous avez promis un week-end historique. Et qui dit week-end historique dit qu'on va partir en week-end plus tôt. J'ai appris ça tout à l'heure. Et c'était le midi exceptionnellement raccourci. À partir de 14h, on passe en intégrale JO avec Arnaud Valadon, avec les équipes d'RMC Sport pour vous faire vivre ce week-end olympique. Ne bougez pas d'RMC. Vous auriez tort, vous rateriez des médailles. Merci Quentin Vinet. C'était le journal de 8h sur RMC. Il est 8h09.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Vous avez. Vous êtes un peu maverick.
Alors, c'est pas tout à fait le même modèle.
Non, on va partir sur du modèle français. Mais on a moins de musique de.
C'est l'ambiance.
Hein. Oui. Contrat record pour Dassault Aviation. On passe à l'économie avec vous, Manuel Lechypre. Dassault Aviation qui enregistre la plus grosse commande de rafale de son histoire.
Oui, c'est le ministère indien de la Défense qui a approuvé hier l'achat de 114 rafales. L'avion de chasse fabriqué par Dassault Aviation. Alors, vous savez, c'est très long à négocier ces contrats de vente d'armes. Et donc, le fait que le ministère indien ait approuvé finalement cette transaction, c'est un pas important dans la finalisation du contrat historique, puisqu'il représente l'équivalent du parc de rafales dont dispose actuellement l'armée de l'air française.
Ah oui,
114 rafales, l'Inde achète d'un coup l'équivalent de tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'armée française. C'est aussi le plus gros contrat jamais signé à l'export pour cet avion de combat, sachant qu'un rafale, alors ça dépend des options, c'est comme les voitures, hein, mais environ c'est 150 millions d'euros, donc ça fait un contrat quand même à une vingtaine de milliards d'euros, et la majorité de ces Rafales seront fabriquées en Inde.
Il y a un régulateur de vitesse, Manu ? Dans les options, il y a les phares Xenon, je sais pas. Le succès était long à venir pour le Rafale.
Oui, le Rafale, il entre en service en 2004 dans l'armée française, mais il faudra attendre 2015 pour qu'une armée étrangère l'achète, c'est l'armée égyptienne. Pas à cause de ses performances, hein. Tous les militaires du monde vous disent que dès son premier vol, en 1986, c'est un avion qui n'a pas de concurrent. Le F-35 américain viendra un peu plus tard, mais il a un peu les défauts du génie français. Le Rafale, hein, il est d'abord, c'est en gros, c'est un rêve pour les ingénieurs, c'est un cauchemar pour les commerciaux.
Français, vous voyez, c'est comme le Concorde.
Il est prétentieux comme un Français. Quoi.
Voilà, c'est génial, ça marche divinement bien, c'est de la technologie d'enfer.
Vous pouvez pas comprendre.
Mais c'est comme le Concorde, c'est comme le PR, c'est comme le TGV, c'est cher, ça demande beaucoup de maintenance. Et puis dans un monde post-guerre froide, dans lequel les budgets militaires sont en baisse, bah c'est compliqué de vendre des avions, surtout que il n'est pas vraiment soutenu politiquement, ce Rafale, et surtout il n'a pas vraiment fait ses preuves au combat par rapport au bon vieux F-16 ou F-18 américain.
Mais alors pourquoi et comment est-ce qu'il devient un succès ?
Et ben d'abord justement parce que il va démontrer son efficacité et ses performances avec l'armée française en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Irak, en Syrie. Et puis la donne géopolitique change. On n'est plus dans l'ambiance désarmement après la chute du mur de Berlin. Là, les conflits se multiplient à nouveau. L'heure est au réarmement. Et puis beaucoup de pays en fait qui veulent se réarmer ne veulent pas non plus se lier les mains avec les États-Unis ou avec la Russie. Et donc l'avion français, il coche un peu toutes les cases, et puis notre diplomatie économique devient plus efficace aussi, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le Rafale est utilisé par une petite dizaine de pays, dont la France évidemment. La liste devrait continuer à s'allonger.
L'Inde qui va acheter l'équivalent du parc français, du parc Exactement. De l'armée française. Merci Manu Le Chypre, c'était l'économie. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Alors, dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Puis à 8h30, l'invité du face-à-face sur RMC et BFM TV avec Marie Chantré, c'est Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Juste après, Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup. C'est à 8h50. Ne manquez pas la roue RMC. On va tourner la roue dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et c'est tous les jours, lui, Arnaud Demanche.
Et bonjour, Mathieu Béliard.
Bonjour, Arnaud, ça va ?
Bonjour, les amis. Bonjour Allez. À tous. Bonjour, Mathieu Béliard, qui prend le lead ce matin. Comme vous êtes beau, avec de si jolis yeux, il a fait des yeux. Béliard.
Ah oui, c'est bon, bon, c'est bon, 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 Belinda.
Où est-ce que ça va,
Ouais, j'ai des yeux.
Allez, aujourd'hui, attention. Demain, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Bonne fête Jean-Marc Morandini, on pense à quoi? La Saint-Valentin, c'est une bonne occasion pour évidemment penser à ses ex. Ah, et oui,
d'où votre
message. comme chaque année, il y a des zoos qui proposent de donner le nom de votre ex. Alors peut-être Jean-Marc Morandini. Il y a des zoos qui proposent de donner le nom de votre ex à un cafard. Voilà, vous pouvez donner votre...
Ah génial.
Et de regarder un reptile le bouffer en live sur Ils organisent ça, il y a aussi une option rat crevé. Ça dépend des rapports que vous avez avec votre ex quoi. Il y a une échelle. À quand un zoo qui propose carrément de faire bouffer votre ex par un serpent qui lui aussi aura besoin de temps pour digérer cette relation. Voilà, c'est un bon truc si vous voulez passer une belle Saint-Valentin. Au fait, d'où ça vient la Saint-Valentin? Vous savez ça? C'est hyper intéressant, c'est une fête romaine au départ qui s'appelle les Lupercales. Et c'était un rituel, un chouille curieux, puisque des hommes nus, uniquement vêtus de peau de chèvre sacrifiée, poursuivaient des femmes au hasard dans toute la ville de Rome, et ils leur fouettaient les fesses avec des lanières en peau de bouc, et ils devaient le faire en riant. C'est absolument authentique, c'est la fête de base.
Cette tradition.
Imaginez, hein, Pascal, Géraldine, vous êtes peinarde en train d'acheter votre pain, il y a trois cinglés morts de rire qui débarquent de derrière un bosquet. Et qui vous claque le boule avec des vieilles peaux de bouc. Oh. C'était la civilisation romaine Polanski. En fait.
Oh, joli!
On a des gravures de l'époque, des dossiers Caius Jeffrus Epstinus qu'on étudie encore. Mais c'est authentique. Alors, l'idée, c'était que les coups de lanière permettaient aux femmes d'être fécondes. Aujourd'hui, la médecine remet largement. Hein, mais ça se fait encore. C'est resté dans quelques soirées auxquelles on ne va plus avec Mathieu. C'était des soirées thématiques. La Saint-Valentin, les filles, c'est le soir où vous allez être déçus, je vous l'annonce tout de suite, parce qu'il y a deux possibilités. Soit le mec que tu kiffes de ouf va t'emmener au kebab. Mm-hmm. Soit le mec que tu veux larguer depuis deux semaines, mais t'oses pas, lui au contraire, il va tout donner. Le restaurant étoilé.
On parle pas assez de lui.
Bah oui, le pauvre. Limite, c'est la bague avec un genou à terre, il est à ça. Bon courage pour vous sortir de ça, les filles. Et puis, la Saint-Valentin, c'est aussi la soirée où on espionne les stories de nos ex. Victor Pourchet me disait fort justement dans les couloirs, une Saint-Valentin n'est vraiment réussie que si celle de ton ex est ratée. Quelle sagesse.
C'est un Alexandrin.
Sagesse. Ouais. Par contre, si notre ex a quelqu'un et affiche son bonheur sur Insta, bah voilà, c'est l'occasion de déboucher une deuxième bouteille et de se bourrer la gueule définitivement pour oublier que la vie est une truie. Bonne soirée de Saint-Valentin à tous.
Et vive les amoureux. Un rapport du ministère de l'Éducation nationale révèle qu'un élève de 6e sur 2 n'arrive pas à courir plus de 5 minutes.
En plein Raphaël Epstein, c'est pas prudent, hein, les enfants. À votre place, je me réentraînerai. Prochain marathon de Paris, on a une belle victoire de Matteo. Matteo, magnifique. D'où te vient cette passion?
Eh ben, un jour, Jack Lang est venu visiter notre école et mes parents m'ont retrouvé le lendemain à la frontière espagnole.
Ça suscite des vocations. Le running, de toute façon, c'est pas un truc de gosse, hein. Le running, c'est vraiment un truc de quadras sous des primes qui préfère un soir de février 10 km sous la flotte plutôt que de rentrer à la maison où il y a sa famille. Quel enfer. Vous avez déjà écouté deux potes qui font du running? Moi, je me prépare pour le 10K. Du coup, je fais des fractionnés en semaine 23 avant de faire les séances à J-12.
Ah ouais.
T'es bientôt prêt pour faire l'UTMB? Ah ouais. Et si on allait se suicider? Oh, ma dépression est totale. Je ressens un tel vide en moi. Oh, des fleurs en Xanax. Je vais les croquer en regardant mon Strava tout nu.
Waouh. Le Kremlin a démenti la rumeur disant que Jeffrey Epstein était un espion russe dont la mission était de compromettre l'élite occidentale.
Ils ont démenti. Si c'était ça la mission, ceci dit, bravo. Mission accomplie. Faut lui donner une médaille à titre posthume. Il a mouillé tout le monde. Epstein, c'est le contraire de SFR. Il avait vraiment un bon réseau, ce mec-là. Il avait des présidents, des ministres, des hommes influents, des princes, des milliardaires, même le Dalai Lama. Le Dalai Lama est mentionné 154 fois. Pourquoi pas l'abbé Pierre, tant qu'on y est. Bon, on va quand même vérifier. Ouais. Plus tranquille. En tout cas, si Epstein était vraiment un espion, il était quand même pas discret. Vous imaginez draguer dans un bar?
Mon nom, Epstein. Epstein, agent 69. Je vais prendre un martini au shaker, pas à la cuillère, et je vais prendre un cacolac pour ma petite amie. Elle n'a pas encore le droit de boire de l'alcool.
Mais Jeffrey, pourquoi on est là? Tu m'avais promis que tu m'emmenais à mon cours de poney.
Ah, oh, zut! Je travaille. Au pire, t'as qu'à y aller avec tonton Jack Lang.
Oh ben non, il fait peur aux animaux et aux autres enfants.
Vivement le film.
Ouais, vivement
le film.
Ce serait
une série. DVD. Très longue série. Bon week-end.
Merci Arnaud Demanche.
Et la roue.
Ben oui, ça va être l'heure de tourner la roue à 8h21.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
Faites tourner la roue RMC.
L'heure est grave.
Oh, il y a de l'enjeu.
C'est l'heure de la roue. Oh.
Toute la semaine, on a teasé.
Attention, et c'est Christophe qui a été tiré au sort depuis Nice, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour, mon cher Christophe.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va, Christophe?
Très très bien, merci beaucoup.
Vous savez que dans quelques secondes, il y aura presque quelques euros de plus sur votre compte en banque. On va essayer de savoir combien. Christophe, vous avez été tiré au sort et je pouvais déjà vous annoncer que vous remportez 1000 euros. Voilà, il y a 1000 euros, ils sont déjà pour vous. C'est déjà gagné pour vous. Et puis il y a la roue RMC maintenant, Christophe, que vous attendez depuis le début de la semaine, qui va vous permettre de multiplier cette somme. Regardez peut-être sur RMC Story, sinon je vous la décris. Vous pouvez multiplier cette somme soit par 2, soit par 3, soit par 5, soit par 13, soit la case mystère, évidemment, on vous la souhaite, parce que vous pourriez monter jusqu'à 30 000 euros, mon cher Christophe. Est-ce que vous êtes prêt?
Je suis prêt.
Je vais tourner la roue pour vous, je change de micro. Et attention, il paraît qu'il faut que la roue fasse 3 tours pour que ce soit validé. Vous êtes prêt, Christophe?
Allez, je suis prêt.
Top.
1, 2 et 3 tours. Maintenant, on va voir où ça tombe, mon cher Christophe. 2, 3. Non! Ah, deux. C'est 2! C'est x 2. Bon, ça fait 2000 euros, mon cher Christophe. Il est là, Christophe?
Il en a perdu.
Il a perdu Christophe. Ça fait 2000 euros.
Non, parce qu'en fait, oui, ok.
Vous allez vous remettre tranquillement, Christophe. Ce qui va se passer, Elisa va prendre votre.
J'ai pas compris le principe.
Vous avez pas compris quoi?
le principe du jeu.
Ah, ben bah le principe, c'est que la roue a tourné, que vous êtes sur x2. Donc vous avez gagné 1000 euros x2, on vous envoie 2000 euros. Vous allez les recevoir net d'impôts cash, c'est pour vous, Christophe. C'est gagné, c'est bon. Il y a plus de stress, c'est pour vous.
Mais merci infiniment.
Félicitations, mon cher Christophe. C'est l'émotion, c'est comme ça. Maintenant, on se retrouve à l'antenne, comme ça, et puis on raccroche, on a 2000 euros de plus. Raccrochez pas, Elisa va prendre vos coordonnées. Votre RIB, hein, surtout, je crois. Je crois que c'est ce qui est important. Merci, mon cher Christophe. Et on retourne la roue dans les grandes gueules. Hein. Je dis pas de bêtises, vous allez pouvoir vous inscrire. Je surveille tout ça. À tout moment, vous entendrez un top et vous aurez 10 minutes pour vous inscrire pour la roue RMC. On est vendredi 13, ça se fête. Bravo, Christophe. Dans un instant, le face-à-face. Marie Chantrey reçoit Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, sur RMC et BFM TV.
RMC. Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La tempête Nils a fait un deuxième mort dans le Tarn-et-Garonne, annonce ce matin de la porte-parole du gouvernement. Il s'agit d'un homme tué dans son jardin. On compte également 5 blessés graves et ce matin 450 000 foyers sont toujours privés d'électricité. On surveille toujours les crues, hein, ce matin. Vigilance rouge sur la Gironde et le Lot-et-Garonne pour la crue de la Garonne. Vigilance orange sur 19 autres départements. Il va pleuvoir, hein, partout, en particulier des pays de la Loire au centre, à l'Île-de-France et à la Bourgogne. Côté température, elles seront entre 9 et 18 degrés cet après-midi.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame Chantrey.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Rassemblement National de la Somme. Je le disais, les annonces du Premier ministre Sébastien Lecornu sur la politique énergétique de la France, on va y revenir en longueur. On reparlera aussi des derniers moments du procès de Marine Le Pen dans les procès des assistants parlementaires, hein, une décision rendue le 7 juillet prochain. Est-ce que ça fait vraiment vos affaires ou ça en recule encore la décision finale? Mais d'abord, la fin d'un faux suspense. Une annonce hier soir tremblante. Bruno Retailleau a annoncé hier en effet être candidat à la présidentielle. Certains dans votre camp disaient de lui, quand il était ministre de l'Intérieur, que c'était votre meilleur porte-parole. Est-ce qu'il pourrait marcher sur votre plate-bande, Bruno Retailleau? Est-ce qu'il vous fait peur pour cette présidentielle?
Non, mais déjà, moi, je salue toutes les candidatures. Chacun peut apporter sa contribution au débat. Il faut c'est les Françaises et les Français qui choisiront. Mais j'ai été attentif à ce qu'a dit Bruno Retailleau et je n'ai pas vu ce qu'il apportait de différent par rapport aux propositions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, mis à part le fait qu'au gouvernement, il a fait l'inverse, hein, record d'entrée d'immigrés, très faible effet sur le nombre de régularisations, l'insécurité qui a malheureusement continué à frapper nos compatriotes. Donc entre les paroles de bon sens, hein, parfois de Monsieur Retailleau.
De bon sens, et vous dites pas grand chose de différent, parce qu'en effet, hier, il promet un référendum, s'il est élu, qu'il arrive au pouvoir immédiatement sur l'immigration, mais également la justice, qui font partie de vos premières propositions de programme présidentiel.
Absolument. C'est vous. Donc, non, mais c'est vrai qu'il reprend les propositions de Marine Le Pen. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Monsieur Retailleau n'a pas soutenu au deuxième tour Marine Le Pen en 2022, ni en 2017 d'ailleurs, et pourquoi il allait soutenir Monsieur Macron au gouvernement, pourquoi il a siégé avec des ministres socialistes qui ont fait le contraire de ce que lui promettait. Donc, ces incohérences qui sont un peu la marque de fabrique, il faut bien le dire, des Républicains, anciennement l'UMP, hein, qui était mon ancienne famille politique il y a 20 ans et que je connais bien, bon, bah, c'est toujours la même chose, c'est des belles paroles, des belles promesses. Évidemment, quand on les entend, on ne peut que être d'accord, mais ensuite, les actes ont trahi. Donc,
vous pointez des incohérences, s'il était sincère, j'entends, ouais, mais bah, je vous entends aussi, et vous êtes connu pour votre franc-parler et votre parler cash, j'entends aussi une forme de bienveillance, j'ai envie de dire, à son égard, d'autant qu'on sait que dans vos sympathisants, 54% le trouvent courageux, travailleur ou encore sérieux, selon une dernière enquête d'opinion. C'est quoi? Vous n'insultez pas l'avenir? Peut-être bon, la suite?
L'insulter, non, on ne veut pas l'insulter, mais bon, j'ai dit qu'il avait tout trahi, donc je ne sais pas si c'est très sympathique de dire qu'un homme politique qui a beaucoup promis.
Non, mais on vous a connu parfois plus.
Il est encore tôt, Madame Chantrey. Et puis j'ai beaucoup de choses à dire de très dur sur l'énergie. Mais voyez, par exemple, si Monsieur Retailleau est sincère, s'il veut montrer que ses actes sont en accord avec ses paroles, il a aussi dit, à côté de ses propositions sur l'immigration et la sécurité, qu'il était contre la nouvelle politique énergétique. Et bien, écoutez, Marine Le Pen hier lui a personnellement adressé un message sur les
et
réseaux
sociaux.
Et on va
y revenir en effet,
en lui disant que les LR censurent, proposent une motion de censure transpartisane. Nous, on est prêt à s'associer, à cette motion de censure si des députés LR veulent la proposer, parce qu'ils sont sont pas assez nombreux pour déposer une motion de censure à eux seuls, et puis on la votera. Mmh. Et dans ce cas-là, on bloquera pour l'intérêt de la France, pour notre économie, pour le pouvoir d'achat.
On reviendra sur cette motion de censure sur la politique énergétique. Mais est-ce que vous comprenez sa stratégie?
Non.
Une forme d'accélération du calendrier. C'est vrai que on s'attendait à cette annonce de candidature, mais pas forcément avant le scrutin des municipales. Qu'est-ce que vous comprenez du fait que hier il fasse cette annonce?
Bah écoutez, il doit avoir peur des résultats aux municipales. C'est vrai que c'est pas brillant sur le terrain pour les Républicains. Après, vous savez, c'est les Françaises et les Français qui voteront, c'est eux qui décideront. Mais je ne m'explique pas effectivement ce calendrier très étrange. S'il était sûr d'avoir des victoires majeures aux municipales, il l'aurait attendu en tant que chef de cette famille politique. C'est très bon résultat, donc c'est très étrange. Je n'ai pas trop bien compris non plus comment il y aura un candidat LR par rapport à Monsieur Bertrand, par rapport à Monsieur Lisnard.
Ça, en effet, bon, ça n'est pas du tout évoqué.
On
ne
comprend pas grand-chose, alors que nous, au Rassemblement National, ben on sait très bien, on a une chef, Marine Le Pen, présidente de la République, Jordan Bardella, Premier ministre. Nous, c'est clair. Pour les Républicains,
c'est clair, sur les même propositions, si on parlera du calendrier judiciaire.
Mais ça dépend aussi
de la décision, des juges.
Ce qui dépend de nous est clair. Les Républicains, ce qui dépend d'eux n'est pas clair. D'ailleurs, il y a un côté un peu, il faut bien le dire, malaisant dans les interventions de Monsieur Retailleau hier. C'est effectivement qu'il prétend avoir de l'autorité alors qu'il avait de l'autorité que sur le ciel sur lequel il était assis.
Et parce c'est
que
dans pointé parti, d'ailleurs
il a l'autorité sur personne.
Par Jordan Bardella dans les minutes qui ont suivi sa déclaration de candidature. J'aimerais vous interroger quand même sur votre stratégie, parce qu'on a du mal à comprendre. C'est la source de tous les maux, notamment en termes d'immigration. Jordan Bardella pointait hier son bilan dans un photomontage très très ironique. Mais en revanche, sur le plan local, et là on parle des municipales, vous n'excluez rien quant à la stratégie de second tour, et donc d'éventuelles alliances. Comment comprendre finalement ce en même temps? C'est-à-dire que sur le plan national, tout sauf les LR, qui ont tout trahi, je vous cite encore, mais sur le plan local, et donc pour les municipales, des alliances pourraient être envisagées.
Alors, nous, on considère qu'on n'est pas tout sauf LR, c'est-à-dire qu'on est mieux que LR, nous sommes plus efficaces, plus sincères, on a des propositions de rupture. Par contre, on n'a jamais dit qu'il fallait voter LFI, par exemple, contre LR, ou même les Verts ou les communistes.
Voilà. Et Bruno Retailleau, sur ce point, vous rejoint aussi. Il a bougé ces derniers temps.
Oui, il a bougé, mais il a bougé après les élections. Alors, c'est toujours un peu dommage, si vous voulez, de pas bouger quand les responsabilités sont là. Parce que pour faire barrage aux insoumis et à la gauche aux dernières élections, il n'y avait personne. Et M. Retailleau,
mais à l'occasion de partiel, une voix pour la gauche avait-il dit, ce qui avait levé dans son camp même un certain malaise.
Écoutez, vous êtes bien aimable, mais c'était quand même pas très clair. Et puis, une fois qu'il a dit ça, il a passé la semaine à s'excuser. Donc, c'est du LR pure souche. Ils ont peur de leurs propres moments de courage, qui sont pourtant assez rares. Nous, en tout cas, on est constant dans notre courage. Il est évident qu'on ne veut pas laisser des communes françaises dans les mains des insoumis. Voilà. Donc, on prendra nos responsabilités. Mais encore faut-il, pour prendre ses responsabilités,
au cas par cas, faire des alliances. Ça fait partie.
Mais Madame Chantrey, ce que vous pouvez envisager. Parce que vous avez dit que j'étais franc. Ce qui va être intéressant, c'est quelle va être l'attitude aussi des LR, des listes LR, qui souvent seront moins fortes que les listes RN. Là, à mon avis, je crains qu'il n'y ait personne. Et même si on devait venir au secours de quelques listes divers droites ou LR pour faire barrage aux insoumis au cas par cas, est-ce qu'ils accepteraient soutien? Parfois, les LR sont tellement lâches qu'ils préfèrent laisser gagner les insoumis que d'avoir le soutien du RN. Donc, c'est eux le problème. De toute façon, je pense que nos compatriotes, on le voit sur le terrain, on le voit dans les sondages, puis on le voit surtout dans les urnes, ont bien compris qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer.
Mais
de LR. D'ailleurs, on les a battus en Haute-Savoie il y a une semaine.
Quand on voit l'attitude de certains prétendants à l'Élysée, à droite, un Xavier Bertrand qui, chaque fois qu'on évoque votre nom, celui du Rassemblement National, réagit vertement. En revanche, avec Bruno Retailleau, on sent que la poutre pourrait peut-être travailler. Est-ce que c'est un pas de plus aussi vers l'Union des Droites à laquelle vous appelez et sur lequel, je pointe cela, le parti n'est pas tout à fait sur la même ligne.
Entre Marine Le Pen
et Jordan Bardella.
Sincèrement, on est sur la même ligne, Madame Chantrey, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Bertrand, qui soi-disant est de droite, c'est pas possible. Voilà, d'ailleurs, c'est nous qui avons empêché qu'il soit Premier ministre, parce que ça aurait été une catastrophe pour la France. On voit bien que l'union des droites en elle-même n'a pas beaucoup de sens. Par contre, c'est qu'il y a des personnalités qui, par leur parcours, leurs promesses électorales, pourrait nous aider à relever la France, évidemment. D'ailleurs, je vous ai dit
à l'instar de ce que vous avez fait avec Éric Ciotti.
Oui, tout à fait. Éric Ciotti est un très bon exemple, mais Sébastien Chenu, Franck Alizio, notre candidat à Marseille, votre serviteur, on vient de l'UMP ou de LR. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont aidé Marine Le Pen, qui ont rejoint Marine Le Pen depuis ses rangs, mais aussi des gens qui viennent de la gauche ou qui n'avaient pas d'étiquette partisane. C'est tous ceux qui veulent redresser la France, et c'est le sens des propos de Jordan Bardella et de Marine Le Pen.
Avant d'en venir à la politique énergétique, une question rapide sur les municipales. Du Rassemblement National, 650 listes
et des candidats désinvestis récemment suite à des enquêtes, nos confrères de Mediapart ou encore de Libération, je pense à Carpentras, Belfort. Est-ce que d'autres profils posent problème à votre connaissance et pourraient être prochainement désinvestis?
Ah non, parce que c'est à notre connaissance, ils seraient désinvestis. Nous, quand il y a des erreurs qui peuvent malheureusement avoir été passées à travers les mailles du filet, eh bien on les corrige immédiatement, sans délai, contrairement aux autres partis d'ailleurs.
Mais vous entendez les reproches qu'ils vous ont fait aussi, oui, du fait que vous n'ayez peut-être pas pris assez leçons des législatives anticipées de 2024 et que à nouveau des cas problématiques se posent à vous?
Non, justement, on a tiré les leçons, on a fait le meilleur travail possible, mais nul n'est parfait. Et nous, on a une réaction immédiate quand il y a une erreur qui se passe. Mais je vous jure, hein, Chantré, si les journalistes et nos adversaires s'occupaient autant de des listes LR, des listes PS, des listes insoumis, il y aurait beaucoup à dire, il y aurait beaucoup à trouver.
Il y a un travail qui est fait
des
aussi.
Maires qui sont élus. Oui, mais moi, quand même, vous remarquerez quand même qu'on inspecte beaucoup les candidats RN, soit, on en prend notre part.
Mais qui vous aide d'ailleurs à faire le ménage. Mais
tant mieux, ça vous aide aussi d'avoir des élus après qui seraient problématiques, parce que ce qui compte, c'est que ces mauvais profils ne soient pas élus, évidemment. Mais il y a des maires sortants, hein. Par exemple, j'ai vu M. Santini qui se présente à Issy-les-Moulineaux ou dans d'autres communes qui sont des macronistes, qui ont des profils qui feraient qu'ils ne devraient pas être réinvestis, hein. Mais eux, ils sont réinvestis. Voilà. Je pourrais parler de beaucoup de cas chez nos adversaires qui font moins la une, voilà, c'est dommage.
Mais pour vous, là, le travail est fait et vos candidatures sont terminées.
Et en tout cas, il y a une réaction à chaque fois de Jordan Bardella, sa main ne tremble jamais. Pour exclure des gens qui n'ont rien à faire chez nous. Et je leur redis d'ailleurs, hein, votre antenne, vous n'avez rien à faire chez nous. Voilà, ne venez pas, parce que dès que vous êtes repéré, vous dégagerez.
Jean-Philippe Tanguy, on parlait de Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur. Son successeur, Laurent Nunez, on l'a appris hier, va se rendre en Algérie ce lundi et ce mardi prochain à l'invitation de son homologue. Il pourrait rencontrer le président algérien Tebboune. Cette visite est-elle une bonne nouvelle de votre point de vue?
Bah, écoutez, ça dépend évidemment de ce que fait la visite, de ce que va dire Monsieur Nunez. En soi, on ne comprend trop pas cette visite parce que l'Algérie est très hostile aux intérêts français, ne coopère pas sur, évidemment, la libération déjà de notre compatriote Christophe Glaise. Le camp Poulain de Sainte-Salle a été libéré, c'est pas par une intervention française, c'est par une intervention allemande.
Mais sur l'immigration, c'est une catastrophe. Sur la coopération, c'est bien que les relations diplomatiques reprennent. C'est une bonne chose de votre point de vue, encore une fois.
Il faut des relations diplomatiques, mais moi, je juge l'arbre à ses
fruits. Vous n'avez pas toujours dit cela. Vous avez toujours été pour la riposte totale.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Et le rapport de force.
On peut avoir un rapport de force, on peut avoir une riposte totale dans le cadre de relations diplomatiques. Là, on juge l'arbre à ses fruits. La soumission à Alger n'a jamais fonctionné. Donc là, on n'a pas, comment dire, de procès d'intention, mais je crains, compte tenu des prises de parole de M. Nunez, que ça n'aboutisse à rien, sinon une énième humiliation de la France, une énième acceptation de toujours plus d'immigrés algériens, de toujours moins de QTF repris par l'Algérie, d'une coopération sécuritaire au point mort, d'accords commerciaux qui ne fonctionnent pas, et d'un régime algérien qui passe son temps à nous insulter. Et M. Nunez est vraiment, en tout cas en France, dans la soumission au régime algérien, comme dans d'autres, avec des prises de parole très faibles. D'ailleurs, il a mis en cause nombreuses reprises M. Retailleau, qui avait fait semblant de s'opposer à Alger, même si dans les faits, M. Retailleau avait continué à accueillir énormément d'immigrés.
On peut lui reconnaître, Jean-Philippe Tanguy, d'avoir quand même repris ce dialogue diplomatique. Force est de constater que la méthode Retailleau n'a pas fonctionné. Peut-être juste un mot, vous évoquez notre compatriote et confrère Christophe Glaise. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des avancées? Dans ce cas-là, si Laurent Nunez ne revenait avec rien,
je
ce serait un échec.
Je l'espère, mais pour le moment, le gouvernement français n'était pas revenu avec M. Sainte-Salle, par exemple. C'est le gouvernement allemand qui l'a libéré. Moi, je le regrette, hein, pour mon pays, c'est quand même une humiliation. Je suis content que M. Sainte-Salle, évidemment, ait été libéré, qu'il ait été élu depuis à l'Académie française. On ne peut que s'en féliciter, mais c'est pas grâce à la France. Donc la méthode Retailleau, je ne sais pas s'il y avait une méthode Retailleau, parce que c'était beaucoup de blabla et pas de résultats. Mais bon, écoutez, en tout cas, nous, on ferait totalement autrement. C'est sûr que nous, on ferait respecter la France.
Jean-Philippe Tanguy, venons-en à cette programmation pluriannuelle de l'énergie, sujet ô combien essentiel, très technique aussi, on va essayer d'être pédagogique. Cela faisait 3 ans qu'on l'attendait. La feuille de route a été présentée par Sébastien Lecornu hier. Le décret, d'ailleurs, a été publié il y a seulement quelques heures par le gouvernement. Il n'y aura donc pas eu de débat au Parlement, comme vous le réclamiez. À un moment, il faut décider, a dit hier Sébastien Lecornu. Il y a faute démocratique, selon vous?
Totalement. On est en pleine dérive illibérale du gouvernement. C'est illégal. Les macronistes ont fait une loi qui est obligée à un vote du Parlement. Non seulement ils n'ont pas respecté le vote, mais ils l'ont enfreint, puisqu'il y a eu un vote.
Mais vous entendez l'urgence?
Il y a eu un vote et l'Assemblée était, mais il n'y a pas d'urgence. Et l'Assemblée était contre. Donc ils ont enfreint le vote de l'Assemblée nationale. Donc pour moi, cette programmation, elle est illégale. Nous sommes en train de préparer, au nom de Marine Le Pen et du groupe un recours devant le Conseil d'État. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est pas du tout pour sauver la planète, évidemment. C'est parce que l'Union européenne, le 30 janvier dernier, a obligé la France à transposer une directive européenne sur les énergies renouvelables complètement contraire aux intérêts français. Et sous deux mois, il y avait une transmission à la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est grave que monsieur...
Donc vous dites que c'est dicté par l'Union européenne. Juste, mais vous, c'est écrit, vous critiquez le gouvernement et Sébastien Lecornu qui vous a rendu quand même coup pour coup ciblé plus ou moins directement hier dans sa prise de parole. Il parle de propos grotesques, politisés, vulgarisés, et il dit que votre chiffrage, celui de votre parti, le RN, autour de 300 milliards d'euros, mélange les pommes et les oranges, je le cite, pour faire peur aux Français. Vous racontez n'importe quoi ?
Non, mais lui raconte n'importe quoi. C'est quoi le chiffrage du gouvernement dans les textes qu'il a proposé
hier ? Il considère notamment que sur les 300 milliards que vous avancez, et il faut compter 200 milliards, notamment, compter 200 milliards qui consistent à améliorer les infrastructures et que finalement vous grossissez un chiffre artificiellement.
D'accord, donc les infrastructures c'est 200 milliards, donc c'est ce qu'on dit nous. C'est combien les subventions aux énergies renouvelables jusqu'en 2040? C'est combien le coût sur tout le transport, sur tout le carburant? C'est combien le coût sur le logement? C'est combien le coût sur l'agriculture, sur l'industrie, sur la civiculture, sur le numérique? Où sont ces chiffrages? Est-ce que vous les avez vus hier? Il y a eu beaucoup de propagande, beaucoup de communication. Où est ce chiffrage? Il n'existe pas.
Il promet de l'annoncer.
Voilà. Merci.
Vous contestez un décret, mais un chiffrage qui n'est pas avancé au même moment, c'est ça?
Écoutez, quand on engage la France sur 10 ans d'un secteur qui décide de toute la vie des Françaises et des Français, de toute notre vie économique, si monsieur le Premier ministre reconnaît qu'il n'a pas fait le chiffrage et qu'il le fera plus tard, c'est bien que nous avons raison et qu'il a tort.
Parce que nous
sommes un parti d'opposition, madame Chantrey. Donc nous, on a fait ces calculs et je peux vous assurer qu'on regardera les Français droit dans les yeux et qu'on assurera que ce calcul est le bon. Il est même, je pense, en dessous, hélas, de la réalité. Le fait que le Premier ministre prenne ses décisions en reconnaissant qu'il n'a fait aucun chiffrage, c'est là où il y a un grave problème dans notre pays. Ce qui est certain, ce qui est écrit dans cette PPE, c'est que le prix du pétrole, du carburant et du gaz, il va augmenter de 50%.
Mais vous entendez qu'il pointe finalement que nous sommes trop dépendants des énergies de l'étranger, que nous avons besoin de retrouver une souveraineté. Ça, c'est un discours qui vous parle. Et pardonnez-moi juste parce qu'il faut qu'on avance sur la suite politique. Marine Le Pen a publié un communiqué hier qui nous interroge. Vous dites, nous invitons les députés qu'ils souhaitent à déposer sous 7 jours une motion donc transpartisane. Mais pourquoi ne pas la déposer tout de suite, vous, le Rassemblement national?
Parce qu'on assume totalement mettre les autres députés face à la responsabilité. Monsieur Retailleau dit, cette politique énergétique met en péril le pays. C'est une catastrophe. Il ne fait rien. Donc on met devant ses responsabilités, comme on l'avait fait sur les finances publiques il y a 2 ans. Et s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, nous on les prendra. Il n'y a aucun suspense. Mais le débat politique, c'est deux choses. C'est dire des choses, c'est faire des propositions, et c'est aussi des actes. Si les LR ne font pas d'actes, c'est bien qu'ils sont encore dans cette coalition. D'ailleurs, ils sont au gouvernement de monsieur Lecornu. Mais juste, ce que je vous ai dit, vous dites la souveraineté. Mm-hmm. Il va multiplier par 4 le solaire. C'est que des panneaux solaires chinois. Il n'y a pas de panneaux solaires en France ou en Europe. Ça n'existe plus. La filière a été détruite. Donc on va importer 4 fois plus de panneaux solaires chinois. Les éoliennes sur Terre, il les double. C'est que des éoliennes étrangères. Il n'y a pas de filière d'éoliennes terrestres en France. Vous voyez bien, tout ça, c'est n'importe quoi. Il dit, on va augmenter le nucléaire. La production nucléaire, dans les propres chiffres du gouvernement, elle sera inférieure en 2035. Elle sera inférieure à ce qu'elle était en 2006.
Parce que ça correspond aux besoins aussi de ce qu'est aujourd'hui le besoin en électricité de la France et des Français.
Pas du tout. Pas du tout, puisqu'ils ont un objectif de production qui est supérieur à la consommation. Mais oui, mais c'est vrai que c'est technique. Mais excusez-moi, quand je lis partout qu'il va y avoir la relance du nucléaire et que tout le monde peut vérifier la production nucléaire en 2035 sera 12% inférieure à ce qu'elle était en 2006.
Mais vous,
on se moque du monde.
Mais sur la motion de censure, vous êtes pour, vous êtes favorable, vous, à titre personnel.
Bien sûr.
Il faut y aller.
Mais bien sûr. Mais Marine Le Pen aussi. Et pour, c'est juste que nous voulons, convaincre nos collègues députés de s'associer à cette motion de censure, et sinon, nous le ferons avec nos amis de l'UDR, je pense. Mais c'est important de montrer la vérité des actes, madame Chantrey, parce que tout le monde peut promettre de belles choses. Regardez, tout le monde avait promis sur votre plateau de sortir du marché européen de l'électricité. Maintenant, à part le RN, ils se sont tous soumis, et c'est les Français qui payent.
Une dernière question.
Final, c'est les factures qui vont exploser.
Très rapide, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Je le disais, le procès du RN s'est achevé. La décision sera connue le 7 juillet prochain. Est-ce que c'est trop tard selon vous? Et peut-être un mot sur le commentaire de l'avocat de Marine Le Pen qui dit « Nous ne sommes peut-être pas à l'abri d'une bonne surprise », parlant évidemment de ce qu'elle risque, d'une inéligibilité de 5 ans qui l'empêcherait de se présenter à la présidentielle. On a connu constat plus optimiste, non?
Ah bah, au contraire, parce que vu comment les choses étaient présentées au début par un certain nombre de médias, le fait que la Cour prenne son temps, c'est que beaucoup de moyens de droit ont été soulevés et que visiblement la Cour a besoin de temps pour étudier tous ces moyens de droit, ce qui prouve que les sujets pour prouver l'innocence de Marine Le Pen et de nos camarades ont sans doute pesé et que le temps est nécessaire. Donc au contraire, on est heureux que la Cour prenne le temps de tout bien regarder.
Rendez-vous donc le 7 juillet prochain. Merci beaucoup,
bonne
Jean-Philippe
journée à tous.
Tegui,
merci
d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Marie. Dans un instant sur RMC, la semaine face à Canteloup, polémique Sarah Knafo, affaire Epstein. Nicolas Canteloup revient à sa façon sur l'actualité de cette semaine.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Vanessa Perret, la procureure du parquet anticriminalité organisée, était l'invitée d'Apolline dans le face-à-face et Patrick Balkany a souhaité lui dire un mot.
Je dis bonjour Madame Perret, c'est Monsieur Levallois.
Oui.
Oh, mais écoutez, un peu d'humour, ça fait pas de mal. C'est Apolline qui a commencé, hein, en vous disant « Alors, vous n'aimez pas les pépitos ?» j'ai écouté attentivement votre interview, chère Apolline. Hein. Les narcotrafiquants qui se font quand même 50 000 d'euros par jour. Ça, t'as entendu, Isabelle? 50 000 euros quand même. Hein.
Oui, j'ai entendu. Tu vois, Patrick, on est vraiment des petits joueurs.
Ah ben, tu m'étonnes. Les gars, ils reviennent du Maroc avec des kilos de shit. Hein.
Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait en ramener plutôt que s'emmerder avec ton service à tagine.
Oh, oh Isa, t'es dur avec moi. Il est très bien, mon service à tagine.
50 000 euros par jour? Non, mais t'imagines, mais faut qu'on arrête de frauder le fisc. Hein, y a beaucoup mieux à faire.
Ah. Vous avez entendu, madame la procureure, grâce à vous, avec Isabelle, on va arrêter de frauder le fisc.
C'est beau. Merci, monsieur Balkany. Sarah Knafo poursuit sa campagne municipale à Paris. Éric Zemmour, ce week-end, elle était interrogée sur le prix du pass Navigo par des journalistes. Elle s'est trompée. Elle a dit 52 euros par an au lieu de 91 euros par mois.
Non, mais arrêtez. Arrêtez de dénigrer Massara, elle fait une super campagne, surtout pour une femme, pardon.
Hein. Ah bah voilà.
Mais non, mais ça lui fait du bien, elle prend l'air, elle fait des réunions de quartier avec d'autres bonnes femmes, elle parle de bac à fleurs, de menus de cantine. C'est très bien comme ça, chacun son truc, voilà.
Dans la même interview, elle a été incapable de citer le nom de trois joueurs du PSG.
Non mais, excusez-moi, mais les joueurs du PSG, ils se ressemblent tous. Hein. Mais pardon, mais déjà de près, ils sont pas faciles à distinguer, mais de loin. Hein, si on voit pas leur numéro dans le dos, ben on est paumé, pardon.
En tout cas, vous faites bien la distinction quand même. Pas se dire combien la Ligue des Champions, le PSG, combien de Ligue des Champions le PSG avait gagné.
Oui, regarde la question, c'est le bordel.
Ouais, c'est le bordel, c'est vrai.
Ouais, mais évidemment, poser des questions pour le de foot pour une bonne femme, c'est des questions pièges.
Ah bah voilà. Hein.
C'est comme si moi vous me demandez de vous citer les meilleures salles de fitness. Hein. On lui demande d'être maire de Paris, pas de remplacer Daniel Riolo.
Philippe de Villiers, bonjour. Vous êtes choqué par Jack Lang?
Évidemment. Ce qui est choquant, mais c'est ma herbe, c'est pas tant cette histoire d'annexe de pédocriminalité. Assez News, bah oui, Assez News, nous sommes ouverts d'esprit sur le sujet. Et puis il y a la notion du pardon. Est-ce pratique le pardon? Non. Ce qui est fou, c'est l'existence sur le territoire d'un institut du monde arabe. Et en plus, avec à sa tête un socialiste. On est en plein islamo-gauchisme.
Selon vous, qui devrait prendre la présidence de l'Institut du monde arabe?
Qui? On s'en fout, c'est personne. À l'urgence, elle n'est pas là, elle n'est pas de nommer quelqu'un, c'est de démanteler de toute urgence ce repère de terroristes. Hein, pour arrêter avec ces orgies lubriques d'ayatollah dans des jacuzzis de pétrole. Hein, franchement, non, un institut du monde arabe. Et pourquoi pas bientôt à Paris une grande mosquée, hein, tant qu'on y est.
Ça existe déjà, la grande mosquée de Paris.
Quoi? Alors c'est quoi la suite? Les tours de Notre-Dame transformées en minaret, c'est ça, hein, le Sacré-Cœur en Hammam et l'Élysée en grand palais du grand vizir, hein, c'est ça.
Pour faire un point donc sur la situation de notre pays, nous recevons Emmanuel Macron. Monsieur le Président, bonjour. Oui. Après une longue séquence à l'international, vous enchaînez depuis plusieurs jours des déplacements en France.
Oui, c'est vrai, chère Apolline de Malherbe, que depuis un an, parmi tous mes voyages à l'étranger, le pays dans lequel je suis le moins allé, je crois que c'est la France.
Ah oui.
Donc j'essaye de me rattraper. Lundi, c'est vrai que j'étais au Salon du Vin, j'ai lancé une cuvée for sure. C'était une réalité, c'est vrai, c'est pas une fausse info. Hier, j'ai inauguré un four électrique à Dunkerque.
Demain, grosse journée, je suis à Bar-le-Duc pour la mise en service d'un lave-vaisselle. Vendredi, je suis à Niort pour inaugurer le nouveau rond-point Franck-Michaël. Et samedi, je donnerai le coup d'envoi de la médiathèque à Dilrami à Châteauroux. Vous voyez, on peut œuvrer à l'international, mais aussi être au plus proche des Français.
Oui, enfin, c'est tout à fait la même envergure quand même quand vous vous occupez d'international.
Ah, alors là, ça, chère Apolline de Malherbe, je suis bien d'accord avec vous.
Ben. Bien sûr.
Ah mais ça c'est vrai que ça s'est un peu calmé, hein, Monsieur Marshall, on nous en parlions ensemble dans une vision dans les couloirs, le Groenland, le Venezuela, l'Iran, il y a plus grand chose à faire là-dessus, c'est vrai que ça roule. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Chaque jour, j'espère que Trump va faire une nouvelle dinguerie.
Voilà.
Ben oui, mais c'est ça qui me permet d'exister. Du coup, faudrait presque qu'en off, je pousse mon Donald à attaquer l'Iran ou envahir le Canada.
Nouvelle révélation aussi dans l'affaire Jeffrey Epstein hier, où on a appris que le nom de Franck Ribéry était cité 7 fois. Un faux témoignage selon son entourage. Didier Deschamps, vous avez été son entraîneur.
Oui, bon. Écoutez, je connais bien Franck Ribéry. Non, je peux vous garantir qu'il n'a rien à voir dans toute cette affaire. Je l'imagine pas un instant solliciter des prostituées mineures, puisqu'il est déjà bien trop occupé avec les prostituées majeures.
Il est innocent.
Oh, innocent, ça fait aucun doute. Vous savez, pour arriver sur l'île de Jeffrey Epstein, il aurait fallu que Franck sache lire un mail, qu'il comprenne comment y répondre, qu'il se rende à un rendez-vous sans se tromper, qu'il prenne un avion tout seul. Non, non, ça tient pas la route un instant, l'île d'Epstein. Non, non, Franck s'y recrute, ça n'ira jamais plus loin que sur le bon coin.
Merci Nicolas. Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, les GG sur RMC avec Olivier Truchot. Quel est le programme, Olivier ?
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent à partir de 9h. On vous attend 32-16. Venez débattre avec elles. Il y aura Charles Consigny, notre avocat, Sandrine Pégan et le docteur Jérôme Marty. On reviendra notamment sur le cas Retailleau. Est-ce que Bruno Retailleau a ses chances dans cette présidentielle ? Sans oublier l'argent qu'on va gagner puisqu'on est vendredi 13. Il y a 30 000 euros à vous faire gagner. Donc soyez des nôtres dès 9h.